Et avant de commencer ce temps de message, j'aimerais vous lire le psaume que nous allons aborder aujourd'hui, qui est le psaume 5. La justice et la bonté de Dieu. Au chef de chœur avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles éternelles, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, aplanis ta voix devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.
Je redis bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps, après la question de catéchisme, et la bienvenue aussi. Je vous souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier aux personnes qui sont là peut-être pour la première fois, et en tout cas, vous êtes les bienvenus parmi nous. Depuis début septembre, nous méditons un par un les psaumes et nous sommes parvenus au cinquième. Et avant de nous y plonger, j'ai une petite question à vous poser, comme assez souvent. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque? Qui oserait lever la main? Parce que parfois c'est une honte, mais il n'y a pas de honte à avoir. Qui a déjà été victime d'une arnaque? Quelle qu'elle soit, même si... Oui, on est quand même nombreux. Et de nos jours, on continue de nous mettre en garde contre ceux qui en ont après notre argent. Et se faire arnaquer, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais suscite bien des émotions allant de la colère à la culpabilité, en passant par la honte. Colère contre l'auteur de l'arnaque qui a réussi à nous tromper. Culpabilité envers nous-mêmes, parce que nous nous disons que nous aurions dû nous méfier, que nous aurions dû nous montrer plus prudents. Et cette situation malheureusement courante est une des expériences qui nous rappelle qu'il y a dans notre monde des gens volontairement mal intentionnés. Et dans le psaume 5, David aussi a fait face à des gens qui lui étaient hostiles, qui lui voulaient du mal, qui souhaitaient peut-être sa chute. Alors nous ne connaissons pas, pour le psaume 5, les circonstances exactes de ce psaume, mais nous voyons bien que cela affecte David. Et comme dans les psaumes 3 et 4, quand David rencontre l'adversité, il se tourne vers Dieu dans la prière. Il crie vers lui. Il cherche de l'aide, du secours auprès de son Dieu. Et en étudiant les psaumes, nous pouvons vraiment apprendre comment prier en pareilles circonstances. Comment prier lorsque nous-mêmes nous sommes aux prises avec des personnes qui nous veulent du mal. Des personnes qui nous trompent volontairement, comme dans le cas d'une arnaque. Et dans le psaume 5, nous lisons plusieurs requêtes que David adresse à Dieu et sur lesquelles nous allons nous arrêter ce matin. Le psalmiste exprime sa confiance en Dieu, car il sait qui est l'Éternel. Et ce qui lui donne des raisons d'espérer, c'est parce qu'il connaît son Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez aussi une situation où vous êtes confronté à des personnes qui vous causent du tort, ou qui expriment une certaine animosité à votre égard, et vous ne savez pas pourquoi. C'est peut-être le cas sur votre lieu de travail, à l'école, dans votre entourage ou encore dans votre voisinage. Peut-être que vous connaissez de telles personnes qui ont quelque chose contre vous et vous ne savez pas pourquoi. Ou bien un jour, il se peut, comme d'autres frères et sœurs le vivent dans le monde, que des gens nous persécutent à cause de notre foi en Christ. Et si nous rencontrons ce genre de situation, que pouvons-nous dire à Dieu ? Pouvons-nous prier l'ensemble de ce psaume que nous avons lu, y compris la partie où David demande à Dieu de punir ses ennemis ? Voyons ensemble ce que ce psaume nous enseigne. La première requête que nous allons voir ensemble, c'est « Écoute mes gémissements ». Écoute mes gémissements. Écoute mes cris. Écoute mes plaintes. Le début du psaume a tout l'air du début d'une prière, lorsque la situation impose de chercher de l'aide. Je relis les versets 2 et 3. « Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Au cœur de l'adversité, David pousse des cris pour implorer son Dieu. Il sait qu'il sera entendu. Il sait à qui il s'adresse. Il s'agit de l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, ses ancêtres, le Dieu qui a fait alliance avec eux et leurs descendants. Il s'adresse à l'Éternel, l'Éternel, le Dieu d'Israël, son peuple, et le Dieu qu'il a choisi personnellement pour être roi sur son peuple. Et si le psaume se situe à peu près à cette même époque, eh bien David est aussi celui à qui Dieu a dit « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Nous découvrons à travers les psaumes la relation vivante et personnelle que David avait avec Dieu. David l'appelle « mon roi et mon Dieu ». David est roi, mais il reconnaît avant tout que le roi que son peuple doit craindre et que lui-même doit honorer, c'est l'Éternel. Mon roi et mon Dieu. Et nous, comment pouvons-nous être assurés que Dieu entendra nos cris ? Comment pouvons-nous être sûrs qu'il entendra nos gémissements ? Eh bien, en tant que chrétien, c'est parce que nous sommes impliqués dans une alliance avec Dieu. Ceux qui sont en dehors de cette alliance n'ont pas l'accès que nous avons. Pourquoi ? Parce que nous l'avons chanté tout à l'heure, parce que c'est par Jésus seul que nous nous présentons devant Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous terminons nos prières par « au nom de Jésus ». C'est par Jésus seul que nous nous présentons devant Dieu. C'est par Jésus seul que nous pouvons avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu. C'est par son sang versé jusqu'à la mort sur la croix qu'une nouvelle alliance a été établie. Une alliance dans laquelle Dieu s'engage envers nous. Il s'engage à nous sauver, il s'engage à nous bénir, il s'engage à nous garder, uniquement parce que Christ a donné sa vie pour nous. Alors oui, nous sommes assurés que Dieu entend nos prières, qu'il y prête attention, parce que Jésus a payé pour nos fautes et que nous avons placé notre confiance en lui et en ce qu'il a fait. Revenons à David. Il sait que le Dieu qui s'est engagé envers lui est à l'écoute. Et d'ailleurs, il ne tarde pas à le dire, si vous regardez le verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Avons-nous aussi une telle certitude au début de chaque journée. Le matin, tu entends ma voix. Avons-nous aussi la certitude que Dieu entend notre voix dès le matin ? Bien sûr, à condition que nous nous adressons à lui. Et avec confiance, David prie, et il sait qu'il est entendu. Et voyez comment il dit les choses. « Je me tourne vers toi, et j'attends. » Le verbe « attendre », ici en hébreu, s'apparente à ce que fait une sentinelle lorsqu'elle guette l'horizon. David avait fait part à l'Éternel de sa situation et il attend. Il guette la réponse de Dieu. Il attend que Dieu intervienne. Il attend parce qu'il a confiance, parce qu'il sait que son Dieu va agir. Il ne sait pas quand Dieu va intervenir, mais il s'en remet à lui. Je me tourne vers toi et j'attends. Êtes-vous aussi dans cette situation où vous avez prié Dieu et où vous attendez ? Mais est-ce que vous attendez sa réponse ? Est-ce que vous attendez son intervention ? Et David guette cette réponse de Dieu. Et s'il a autant confiance, c'est à cause de ce qu'il sait à propos de Dieu. Alors qu'il est confronté à des personnes animées par la méchanceté, assoiffées de sang, prenant plaisir au mensonge, David sait que le Dieu d'Israël a horreur du mal. Que le Dieu d'Israël a en horreur ceux qui pratiquent le mal. Oui, c'est dans cette situation en particulier que David s'attend à Dieu. Et David peut attendre quelque chose de la part de Dieu, parce que nous lisons au verset 5, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Dans votre scolarité, vous avez peut-être abordé la mythologie gréco-romaine, ou égyptienne, ou scandinave. Et souvent, les dieux étaient présentés dans ces mythes comme des êtres capricieux, parfois fourbes, en tout cas très semblables aux humains. En somme, peu vertueux. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a rien de commun avec ces divinités imaginaires. David l'évoque ici, le mal n'a pas sa place auprès de Dieu. Notre Dieu, tel qu'il s'est révélé à nous dans la Bible, est absolument bon, absolument saint. Il n'y a aucun mélange en lui, pas une once de mal. Et surtout, il déteste le mal. Le mal est à l'opposé de ce qu'il est, à l'opposé de sa volonté. Le mal provoque sa colère. Et toutes ces affirmations que nous lisons au verset 5, 6 et 7 sont à prendre au sens fort. Dieu a vraiment horreur de ceux qui aiment verser le sang innocent. Dieu a vraiment horreur de ceux qui utilisent le mensonge pour nuire aux autres. Le mal devrait toujours nous horrifier, nous aussi. Je ne sais pas vous, mais il n'y a pas une semaine où je n'entends pas un fait divers en France qui implique un homicide. Nous ne devrions pas le banaliser sous prétexte que ce soit courant. Aux yeux de Dieu, c'est une horreur, une abomination. Dieu a horreur de ceux qui versent le sang innocent. Dieu a horreur de ceux qui utilisent le mensonge pour nuire aux autres. Et ce ne sont pas des mots qui sont exagérés ou trop forts. Le psalmiste peut s'attendre à une réponse de Dieu, car il sait que son Dieu n'est pas indifférent à l'égard de ceux qui commettent des injustices. Et nous pouvons être certains de cela. Face au mal, Dieu ne tarde pas à réagir. Face au mal, Dieu ne tarde pas à réagir. Si parfois il nous arrive à nous d'être passifs face à l'injustice, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous ressemble pas. Soyons sûrs qu'il rendra sa justice, tôt ou tard. David le savait et il a compté sur son Dieu. Oui, dans les situations où nous pouvons être victimes d'une injustice, où nous sommes lésés, nous savons que nous avons un Dieu juste et saint qui ne ferme pas les yeux sur le mal commis. Et à l'exemple de David, adressons-nous à Dieu avec confiance, en sachant qu'il entend la voix de celles et ceux qui lui appartiennent. À l'exemple de David, attendons d'une manière confiante, attendons que Dieu intervienne, conformément à son caractère et à son plan. Et avant d'évoquer la deuxième requête, il faut bien souligner qu'un Dieu absolument saint, qui n'admet pas celui ou celle qui commet le mal en sa présence, est un Dieu qu'il faut redouter et craindre. Si notre Dieu a horreur du mal et de ceux qui commettent le mal, alors c'est un Dieu qu'il faut redouter et craindre. Là aussi, David, tout pécheur qu'il était, comme nous tous, savait qu'il bénéficiait d'une faveur imméritée quand il venait à Dieu. Et c'est ce qu'exprime la deuxième partie du psaume à partir du verset 8. La deuxième requête, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi dans ta justice. Mais d'abord le verset 8. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Contrairement à tous ceux qui prennent plaisir à la méchanceté, David trouve son plaisir en Dieu. Il sait qu'il peut s'approcher de Dieu, s'approcher de là où Dieu est présent, dans sa maison, qui à l'époque n'était pas encore un temple. Et il sait qu'il peut s'approcher à cause de la grande bonté de Dieu. C'est parce que Dieu fait grâce que David et son peuple peuvent venir l'adorer. Vous pensez bien que David, pécheur qu'il était, ne pouvait pas s'estimer assez juste pour se présenter devant Dieu. Mais c'est simplement parce que Dieu est suffisamment bon et fait suffisamment grâce que cela est possible. Et bien entendu, il n'est pas question à cette époque de se présenter à Dieu les mains vides. L'adorateur venait avec un sacrifice, offert conformément à la loi que Dieu lui-même avait prescrite. Le sacrifice devait rappeler constamment à celui qui l'offre qu'il n'est jamais suffisamment pur, qu'il n'est jamais suffisamment juste pour se tenir devant Dieu. Constamment, le fait d'offrir un sacrifice devait lui rappeler qu'il n'est pas assez juste pour se tenir devant Dieu. Et c'est pour cela qu'un animal doit mourir à sa place. Et l'adorateur qui est pécheur et qui se présente à l'Éternel, eh bien, doit le faire avec crainte, avec un profond respect que Dieu mérite. L'adorateur ne compte que sur la grande bonté de Dieu, qui accepte le sacrifice et qui l'accepte lui, qui vient l'offrir. Et aujourd'hui, si nous pouvons nous approcher du Dieu saint qui déteste le mal et ceux qui le commettent, c'est parce qu'un sacrifice parfait, offert une fois pour toutes, a été présenté à Dieu. Oui, c'est parce que Jésus est mort sur la croix à notre place, comme nous l'avons chanté, et qu'il est mort pour nos péchés, que pardonné, nous avons désormais accès à Dieu. Que pardonné, nous pouvons nous tenir devant Dieu. C'est uniquement par sa grande bonté que nous pouvons nous présenter devant lui. Ne l'oublions pas, quand jour après jour nous nous approchons de Dieu dans la prière, ou lorsque nous lui rendons ensemble un culte comme ce matin, ne l'oublions pas, c'est par sa grande bonté que nous pouvons venir à lui. C'est parce qu'il nous a fait grâce que nous pouvons être là devant lui, et uniquement cela. Ce n'est jamais en rapport avec ce que nous avons fait de bien, ou si nous avons une valeur quelconque de justice, mais c'est grâce à la justice de Christ, grâce à la bonté que Dieu nous exprime, que nous pouvons venir devant lui. Écoutons maintenant ce que David demande maintenant. Verset 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. » Leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flatteuses. Voilà donc la deuxième requête de ce psaume. Conduis-moi dans ta justice. Aplanis ta voie devant moi. Autrement dit, guide-moi, Seigneur, dans tes voies justes. Conduis-moi sur le chemin de la justice, de ta justice. Que je puisse rester droit, intègre devant toi. Garde-moi dans tes voies à cause de mes adversaires. Et ici, David n'exprime pas sa peur par rapport à ce que peuvent lui faire les hommes, mais par rapport à la séduction du mal. Face au péché environnant, David pourrait lui-même céder et répondre au mal par le mal. Mais il prie et il demande à l'Éternel de le garder dans sa justice. Seul Dieu est juste, seules ses voies sont justes. Et David le sait et il s'en remet à lui avec confiance. Conduis-moi dans ta justice. Par contraste, ses adversaires ne recherchent pas la justice de Dieu. Ils préfèrent le mensonge, ils préfèrent la duplicité, ils préfèrent la tromperie. Leur être intérieur, leur pensée, tout en eux révèle leur intention de nuire. Et quand ils se mettent à parler, c'est la métaphore que nous avons ici, quand ils se mettent à parler, ça sent la mort. Conduis-moi dans ta justice. David veut s'éloigner de ces gens, car il ne sait que trop bien combien lui-même il est vulnérable. Et à ce titre, il est intéressant de voir comment l'apôtre Paul a cité ce verset 10 dans son épître aux Romains, au chapitre 3. Nous l'avons vu il y a déjà quelques mois. Paul cite ce verset et d'autres passages de l'Ancien Testament pour parler de la culpabilité des Juifs comme des non-Juifs. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et en fait, nous sommes concernés par cette déclaration. Malheureusement, du fait que le péché est toujours une réalité dans notre vie, nous sommes susceptibles, si nous ne prenons pas garde, de mentir, de tromper par nos paroles, voire de chercher à nuire. Si nous ne prenons pas garde, nous sommes susceptibles, à cause du péché qui est toujours là, de faire toutes ces choses. Bref, nous pouvons vraiment ressembler aux ennemis de David, tels qu'il est décrit ici. Ne sous-estimons pas le pouvoir séducteur du péché. Plus nous sommes entourés de gens qui prennent plaisir au mal, et plus nous sommes tentés de faire le mal à notre tour. Et puisque nous connaissons très bien notre faiblesse qui tend facilement la main au péché, alors promptement, disons avec David, Éternel, conduis-moi dans ta justice. Conduis-moi de sorte que je suive tes voies, qui, elles, sont entièrement justes. Et reconnaissons simplement que pour faire la volonté de Dieu, d'un point de vue moral, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin que ce soit lui qui nous conduise. Comment Dieu, d'ailleurs, nous conduit-il dans sa justice? Comment? Si nous lui demandons « Conduis-moi dans ta justice », comment le fait-il? Eh bien, Dieu utilise sa parole, par exemple. Dieu utilise sa parole pour nous éduquer à la justice. Vous connaissez ce verset de 2 Timothée 3, verset 16. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Comment Dieu nous conduit dans la justice? Eh bien, déjà par sa parole. Oui, c'est dans sa parole que nous apprenons ce qui est vraiment juste aux yeux de Dieu. C'est vraiment dans sa parole que nous découvrons en quoi consiste la vraie justice pour Dieu. Et Dieu nous conduit dans sa justice, eh bien, par son esprit aussi. Par son esprit qui œuvre en nous pour nous transformer, pour nous rendre plus semblables à celui qui est parfaitement juste, Jésus, notre Seigneur. Alors oui, nous pouvons compter sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans sa justice. Et face au mal qui nous entoure, face au tort que d'autres peuvent nous faire volontairement, avons-nous ce même souci de ne pas céder nous-mêmes au mal ou à la vengeance? Lorsque nous sommes dans ce genre de situation où quelqu'un nous a fait du mal, est-ce que nous avons ce même souci de nous dire « Seigneur, conduis-moi dans ta justice » pour que je ne rende pas le mal pour le mal? Et le psalmiste nous donne ici une leçon. Il se tourne vers Dieu pour lui demander d'intervenir, afin que son cœur soit gardé de la tromperie. Alors faisons aussi nôtre cette requête, afin de ne pas nous laisser séduire par le péché. Conduis-nous, Seigneur, dans ta justice. Et maintenant, que penser de la troisième requête, qui se trouve au verset 11 ? La troisième requête, chasse les rebelles. Chasse les rebelles. Je relis le verset 11. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Ce verset que je viens de lire et d'autres dans les psaumes ont amené certains à se demander si aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvions encore prier ainsi. La question est la suivante. Pouvons-nous demander à Dieu de punir les méchants alors que Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis et qu'il a lui-même prié pour que ses bourreaux soient pardonnés, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Est-ce que nous pouvons prier cette partie du psaume ? Alors bien entendu, si la question était simple, ce serait facile, mais il n'est pas facile de répondre à cette question. Une chose est sûre, si ce verset 11 se trouve dans la Bible, c'est qu'il est inspiré de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour retrancher une quelconque parole. Mais comprenons bien d'abord qu'il y a une différence d'époque. Et qu'à l'époque, à cette époque, à ce moment, à l'époque de David, Israël avait de nombreux ennemis. Et que Dieu, par ses jugements, intervenait de nombreuses fois pour l'en délivrer. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église, n'a pas à défendre un territoire physique. Nous sommes dispersés dans les quatre coins du globe. Et les ennemis qu'il s'agit de chasser de l'Église, ce sont les fauteurs de troubles, les gens qui causent des divisions et qui enseignent des doctrines erronées. Je pense notamment à ce texte où l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 16, versets 17 à 18, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. » Vous remarquez sans doute les similitudes entre le portrait que David dresse de ses adversaires et celui que Paul fait de ces hommes qui ne servent pas Christ. Dans les deux cas, ce sont des gens qui cherchent à tromper. Autre remarque que nous pouvons faire, et comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, Dieu est un Dieu juste qui ne peut pas fermer les yeux sur le mal. Quand David prie de cette manière, il fait cette requête conformément au caractère de Dieu. Oui, Dieu qui est saint et juste châtie les coupables. Il ne les tient pas pour innocents. Et comme l'ont relevé certains commentateurs, David a ici le souci de l'honneur, de la gloire de Dieu. Là, il s'agit bien de personnes. Dans notre texte, il s'agit de personnes qui se révoltent contre Dieu et qui visiblement ne veulent pas faire marche arrière. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. David demande à Dieu d'exercer sa justice parce que son honneur est en jeu. Il n'en fait pas une affaire qui lui est personnelle, mais il prie cela par égard pour Dieu. Et il s'en remet entièrement à la justice divine. Et de même, cette requête ne doit pas être notre affaire personnelle. Cela regarde Dieu. Enfin, une telle requête, si nous la faisons nôtre, nous rappelle qu'ultimement, au jour du retour de Christ, le Seigneur condamnera les pécheurs qui seront restés rebelles à lui. La justice sera entièrement rendue ce jour-là. Et celles et ceux qui seront restés endurcis dans leur révolte contre Dieu seront définitivement chassés, séparés de Dieu. Écoutez cette parole de l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 10. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Paul dit cela à des chrétiens qui connaissent la persécution et il dit « Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. » Et il me semble que cette pensée-là n'est pas si éloignée de ce que David ici exprime. Nous savons que c'est le sort qui attend les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi nous alertons. C'est pourquoi nous avertissons dès maintenant nos contemporains qui n'ont pas cru en Jésus afin qu'ils se détournent de leur révolte contre Dieu pour se tourner entièrement vers le Dieu qui fait encore grâce. La ruine est ce qui attend les malfaisants. Souvenez-vous du psaume 1, verset 6. « En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » C'est le cas déjà en cette vie-ci, mais aussi dans l'éternité. Et si nous y réfléchissons, n'est-ce pas seulement débarrasser du mal et de ceux qui le commettent que nous pourrons réellement connaître le bonheur et la paix? N'est-ce pas lorsque Dieu rendra parfaitement son jugement et qu'il aura chasser loin de sa présence celles et ceux qui lui ont résisté aussi longtemps, que le bonheur sera possible et que la paix sera totale. Et en fait, nous nous rendons compte que le bonheur et la paix ne sont que à cette condition-là, que Dieu punisse totalement le mal. Et Dieu nous a fait la promesse dans sa parole qu'un tel jugement aura lieu. Et déjà en cette vie-ci, auprès du Dieu qui défend notre cause, nous pouvons nous réjouir. Et j'aimerais terminer là-dessus parce que le psaume termine ainsi. Le psaume ne termine pas sur le jugement des méchants, mais il termine sur la joie en Dieu. Regardez les versets 12 et 13. « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi autant de joie à la fin de cette prière, alors même que le psalmiste criait sa détresse au début? Pourquoi autant de joie? À cause de cette communion avec Dieu. À cause de cette confiance placée en lui. À cause de cette relation privilégiée qu'il a avec Dieu. Et nous avons dit plutôt que ce n'est que par Christ que nous avons accès à Dieu, que nous avons une telle relation. Dieu est la raison de notre joie, quelles que soient nos circonstances. Dieu est la raison, la source de notre joie. Et puisque cette relation que nous avons avec Dieu est destinée à durer, eh bien, il n'est pas étonnant de lire au sujet de tous ceux qui trouvent leur refuge en Dieu, qu'ils seront pour toujours dans l'allégresse. Oui, si Dieu est effectivement la raison de leur joie, alors cette relation qu'ils auront avec Dieu jusque dans l'éternité fera qu'ils seront dans l'allégresse éternellement. Leur protecteur n'est autre que le Dieu vivant. La joie qui nous est décrite ici, nous pouvons la connaître déjà ici-bas, parce que nous sommes en relation précisément avec ce Dieu en qui nous nous sommes confiés. Et quelle heureuse espérance, quelle heureuse perspective que de savoir que nous vivrons une joie éternelle en présence de celui que nous aimons. Et dès à présent, le juste ne se confie pas en lui-même, il ne se confie pas en sa propre justice, mais en Dieu, et il est assuré de la faveur de Dieu. Il est assuré à cause de cela de sa bénédiction. Parce qu'il ne se confie pas en lui, mais il se confie en Dieu. Et c'est ce que nous lisons au verset 13. Et le croyant qui est en relation avec Dieu est dans une joie immense parce qu'il bénéficie de cette faveur. Si vous avez placé votre foi en Christ, vous avez la faveur de Dieu. Non seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Vous avez sa faveur. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, nous avons sa faveur. Et avoir la faveur de Dieu, c'est mieux que ce que nous avons lu concernant les ennemis de Dieu. Et regardez la dernière image utilisée dans notre psaume. Dieu entoure de sa grâce les siens, celles et ceux qui sont en Christ et qu'il a déclarés justes. Dieu nous entoure de sa grâce comme s'il s'agissait d'un bouclier. Il nous entoure de sa grâce. Et assurément, dans ce cas, nous n'avons vraiment rien à craindre. Si Dieu nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier, nous n'avons rien à craindre. Si nous avons de manière totalement imméritée la faveur de Dieu, alors qu'est-ce que nous craignons encore ? Le fait d'avoir un tel accès à Dieu, alors qu'il chasse les rebelles, nous pousse évidemment à la reconnaissance, nous pousse à éprouver cette joie de connaître une telle communion avec Dieu. Si vous connaissez cette communion avec Dieu, je suis certain que vous savez de quoi je parle quand je parle de joie. Si vous vivez cette relation vivante et personnelle avec Dieu, vous savez de quoi je parle quand je parle de joie, lorsque Dieu est la raison de cette joie. Est-ce que ce matin, Dieu est toujours un sujet de joie pour toi ? Pour celles et ceux qui aiment son nom, c'est-à-dire qui aiment Dieu, forcément Dieu est un sujet de joie. Et ça nous ramène à cette réalité de nous dire que parfois, si nous n'éprouvons pas cette joie liée à Dieu, c'est peut-être parce que nous ne l'aimons pas suffisamment. Parce que si nous aimons Dieu, alors il fait notre joie. Vraiment. C'est ce que nous lisons dans sa parole. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Il est notre sujet de joie. Même au milieu de ce monde habité par des gens mal intentionnés, même au cœur de notre souffrance à cause de l'injustice, nous pouvons expérimenter la joie qui est liée à Dieu. Alors une fois de plus, je vous le demande et je m'interroge aussi à ce sujet, est-ce que Dieu est ce matin un sujet de joie pour nous ? Nous avons vu aujourd'hui dans ce psaume 5 trois requêtes principales adressées au Dieu qui est juste. Écoute mes gémissements, conduis-moi dans ta justice et chasse les rebelles. Que nous soyons victimes d'une arnaque ou de toute autre injustice, nous savons que nous avons auprès de Dieu une oreille attentive. Il déteste le mal, il est entièrement juste et lui seul peut nous garder dans ses voies. Et il bénit celles et ceux qui se confient en lui. Alors notre seul refuge, lorsque nous sommes confrontés au mal, que ce soit notre propre mal lorsque nous péchons ou lorsque c'est le mal qu'on nous inflige, notre seul refuge, comme nous le répétons déjà depuis quelques semaines, notre seul refuge est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Face au mal environnant, Dieu est notre seul refuge. Nous avons l'assurance encore ce matin, à cause de ce que Dieu dit lui-même dans sa parole, qu'il se tient auprès de ceux qui se réfugient en lui. Et grâce à Jésus-Christ, nous le connaissons. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes en communion avec lui. Et la joie qu'il promet en sa présence, nous pouvons d'ores et déjà l'éprouver. En attendant qu'il réalise pleinement cette parole, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. et tu les protégeras. Amen.